Les affinités électives, deuxième partie, chapitre 10. La santé de Charlotte s'était parfaitement remise. Heureuse et fière du robuste garçon auquel elle avait donné la vie, ses yeux et sa pensée suivaient chaque développement de la physionomie expressive de cet enfant. Sa naissance l'avait rattachée au monde et à ses divers rapports, et réveillé son ancienne activité. Tout ce qu'elle avait fait, créé, établi pendant l'année écoulée, lui revenait à la mémoire et lui causait un plaisir nouveau, puisque tout cela devait profiter à son fils. Dominée par ce sentiment de mère, elle se rendit un jour dans la cabane de mousse avec Ottilie et l'enfant, qu'elle fit déposer sur la petite table, comme sur un autel domestique. En voyant auprès de cette table deux places vides, occupées naguère par Édouard et par le capitaine, le passé se présenta vivement devant elle et fit germer dans sa pensée un nouvel espoir pour elle et pour Ottilie. Les jeunes filles examinent probablement dans leur silence pudique les jeunes hommes de leur société habituelle en se demandant à elles-mêmes lequel elle désirerait pour époux. Mais la femme chargée de l'avenir d'une fille ou d'une jeune parente étend ses recherches sur un cercle plus vaste. Charlotte se trouvait dans ce cas. Aussi son imagination lui représenta-t-elle le capitaine, qui, quelques mois plus tôt, avait occupé un des sièges restés vides dans la cabane, et elle crut voir en lui le futur mari d'Ottilie. Car elle savait qu'il n'y avait plus aucun espoir de conclure le brillant mariage que le comte avait projeté pour lui. La jeune fille prit l'enfant dans ses bras et suivit Charlotte qui venait de sortir brusquement de la cabane pour continuer sa promenade, pendant laquelle elle s'abandonna à une foule de réflexions. La terre ferme a aussi ses naufrages, se dit-elle à elle-même. Et il est aussi louable qu'utile de chercher à réparer ces désastres inévitables le plus promptement possible. La vie est-elle autre chose qu'un échange perpétuel de pertes et de gains? Qui de nous n'a pas été arrêté dans un projet favori, détourné de la route qu'il croyait avoir choisie pour toujours? Que de fois n'avons-nous pas abandonné le but vers lequel nous tendions depuis longtemps pour aspirer à un prix plus noble et plus grand. Lorsqu'un voyageur brise sa voiture en route, cet accident lui paraît fâcheux, et cependant, il lui vaut parfois une connaissance, un lien nouveau qui embellira le reste de sa vie. Oui, le destin se plaît à réaliser nos vœux, mais à sa manière. Il aime à nous donner plus que nous ne demandions d'abord. En arrivant sur le haut de la montagne, près de la maison d'été, Charlotte trouva, pour ainsi dire, la réalisation des pensées auxquelles elle venait de se livrer, car le tableau qui se déroulait sous ses yeux dépassait ses espérances. Tout ce qui aurait pu nuire à l'effet de l'ensemble, en lui donnant un cachet de petitesse ou de confusion, avait disparu. La beauté calme et grandiose du paysage se dessinait nettement aux regards étonnés, qui se reposaient avec plaisir sur la verdure naissante des plantations nouvelles, destinées à unir agréablement les parties trop coupées. La vue dont on jouissait des fenêtres du premier étage de la maison était aussi belle que variée, et faisait pressentir le charme que devaient nécessairement lui prêter les variations des effets de lumière, de soleil et de lune. La maison était presque habitable. Quelques journées de menuisier, de peintre en bâtiment et de tapissier suffisaient pour terminer ce qui restait à faire. Charlotte donna des ordres en conséquence, puis elle y fit apporter des meubles et approvisionner la cave et les cuisines, car le château était trop éloigné pour aller à chaque instant y chercher les objets de première nécessité. Ces préparatifs achevés, les dames s'installèrent avec l'enfant dans cette charmante demeure environnée de tous côtés de promenades aussi pittoresques qu'intéressantes. Dans ces régions élevées, elle respirait avec bonheur l'air frais et embaumé du printemps. Ottilie, cependant, descendait toujours de préférence, tantôt seule et tantôt avec l'enfant dans ses bras, le sentier commode qui conduisait vers les platanes, et de là à l'une des places où l'on trouvait la nacelle pour traverser le lac. Ce plaisir avait beaucoup d'attrait pour elle, mais elle ne se le permettait que lorsqu'elle était seule. Car Charlotte, que la plus légère apparence de danger faisait trembler pour son enfant, lui avait recommandé de ne jamais le promener sur l'eau. Le jardinier, accoutumé à voir la jeune fille partager sa sollicitude pour les fleurs, ne fut point négligé. Elle laissait rarement passer une journée sans aller le visiter dans ses jardins. À cette époque, Charlotte reçut la visite d'un Anglais qu'Édouard avait rencontré plusieurs fois dans ses voyages. Ils s'étaient promis de venir se voir si l'un se trouvait dans le pays de l'autre, et le lord, à qui l'on avait parlé des embellissements que le baron avait fait faire dans ses domaines, s'était empressé de réaliser sa promesse. Muni d'une lettre de recommandation du comte, il arriva chez Charlotte et lui présenta son compagnon de voyage. Homme d'un caractère aimable et doux, qui le suivait partout. Ce nouvel hôte visita la contrée, tantôt avec les dames ou avec son compagnon, tantôt avec le jardinier ou les gardes forestiers, parfois même seul. Et ses remarques prouvaient qu'il savait apprécier les travaux achevés et ceux qui ne l'étaient pas encore, et que lui-même avait fait exécuter de semblables embellissements dans ses propriétés. Au reste, tout ce qui pouvait donner de l'importance ou un charme quelconque à la vue l'intéressait, et il y prenait une part active, quoiqu'il fût déjà avancé en âge. Sa présence fit sentir plus vivement aux dames la beauté des sites qui les entouraient. Son œil exercé saisissait chaque point remarquable de la contrée qui le frappait d'autant plus vivement que, ne l'ayant pas vu avant les changements exécutés, il ne pouvait savoir ce qu'il devait à l'art ou à la nature. On peut dire en général que ses observations agrandissaient et enrichissaient la contrée, car cet amateur passionné jouissait d'avance du charme qui ajouterait les plantations nouvelles que son imagination voyait déjà telles qu'elles seraient quelques années plus tard. Mais s'il admirait tout ce qui était et tout ce qui ne pouvait manquer d'être bientôt, aucun oubli n'échappait à sa pénétration, indiquant ici une source qui n'avait besoin que d'être déblayée pour en faire l'ornement d'un vaste bocage, et là un creux de montagne qui, un peu élargi, formerait un lieu de repos d'où l'on pourrait, en abattant seulement quelques arbres, apercevoir de magnifiques masses de rochers pittoresquement entassés. Il félicitait Charlotte de ce qu'il lui restait encore quelque chose à faire et l'engageait à ne pas aller trop vite afin de prolonger aussi longtemps que possible le plaisir de créer et d'embellir. Cet homme si sociable ne se rendait jamais importun, car il savait s'occuper utilement. À l'aide d'une chambre obscure qu'il portait partout avec lui, il reproduisait les points de vue les plus saillants des contrées qu'il visitait et se procurait ainsi un recueil de dessins aussi agréable pour lui que pour les autres. Pendant les soirées qu'il passait avec les dames, il leur montrait ses dessins, qui les amusaient d'autant plus que les récits et les explications dont l'aimable lord les accompagnait faisait passer sous leurs yeux, au milieu de la profonde solitude dans laquelle elle vivait, les rivages et les ports, les mers et les fleuves, les montagnes et les vallées les plus célèbres, ainsi que les castels et les autres localités immortalisées par les événements historiques dont ils avaient été le théâtre. Cet intérêt, cependant, était d'une nature différente chez chacune des deux dames. l'importance historique captivait Charlotte, tandis qu'Ottilie aimait à s'arrêter sur les contrées dont Édouard lui avait parlé souvent et avec prédilection. Car nous avons tous des souvenirs de faits ou de localités plus ou moins éloignées, auxquels nous revenons toujours avec plaisir, parce qu'ils se trouvent en harmonie avec certaines particularités de notre caractère, ou avec certains incidents de notre vie, que l'habitude ou nos penchants naturels nous ont rendus chers. Lorsque les dames demandaient au noble lord dans laquelle des charmantes contrées dont il leur montrait les dessins, il se fixerait de préférence, s'il avait la liberté du choix, il éludait une réponse directe et se bornait à raconter les aventures agréables qui lui étaient arrivées dans les unes ou les autres de ces contrées, et il en vantait le charme, avec une prononciation en français pittoresque qui donnait à son langage quelque chose de piquant. Un jour, Charlotte lui ayant demandé positivement quel était son domicile actuel, il répondit avec une franchise à laquelle elle était loin de s'attendre. J'ai contracté l'habitude de me croire partout dans mes propres foyers, au point que je ne trouve rien de plus commode que de voir les autres bâtir, planter et tenir ménage pour moi. Je n'ai nulle envie de revoir mes propriétés, d'abord pour certaines raisons politiques, et puis parce que mon fils, pour lequel je les avais embellis dans l'espoir de l'en voir jouir avec moi, ne s'y intéresse nullement. Il s'est embarqué pour les Indes afin d'y utiliser ou gaspiller sa vie, comme l'ont fait et le feront tant d'autres avant et après lui. J'ai remarqué, en général, que nous nous occupons beaucoup trop de l'avenir. Au lieu de nous installer commodément dans une position médiocre, nous cherchons toujours à nous étendre, ce qui ne sert qu'à nous mettre plus mal à l'aise nous-mêmes, sans aucun avantage pour les autres. Qui est-ce qui profite maintenant des bâtiments que j'ai fait élever, des parcs et des jardins que j'ai fait planter? Certes, ce n'est pas moi, ce n'est pas même mon fils, mais des étrangers, des voyageurs que la curiosité attire et que le besoin de voir toujours quelque chose de nouveau pousse sans cesse en avant. Au reste, malgré tous nos efforts pour nous trouver bien chez nous, nous ne le sommes jamais qu'à demi, surtout à la campagne, où il nous manque à chaque instant quelque chose que la ville seule peut nous fournir. Le livre que nous désirons le plus ne se trouve jamais dans notre bibliothèque, et les objets de première nécessité, du moins selon nous, sont précisément ceux qu'on a oublié de mettre à notre portée. Oui, nous passons notre vie à arranger telle ou telle demeure dont nous déménageons avant d'avoir pu terminer nos apprêts. C'est rarement notre faute, et presque toujours celle des circonstances, des passions, du hasard, de la nécessité. Le lord était loin de présumer que ces observations pouvaient s'appliquer à la situation de la tante et de la nièce. Les généralités les plus indéterminées deviennent toujours des allusions quand on les énonce devant plusieurs personnes, lors même que l'on connaîtrait parfaitement l'ensemble de leurs rapports de famille et de société. Charlotte avait si souvent été blessée de la sorte par les amis les mieux intentionnés, et sa haute raison à envisager le monde sous un point de vue si juste, qu'elle supportait, sans en souffrir, les attaques involontaires qui la forçaient à reporter ses regards sur tel ou tel point fâcheux de son existence. Mais pour Ottilie, qui rêvait et pressentait plutôt qu'elle ne jugeait, et que son extrême jeunesse autorisait à détourner les yeux de ce qu'elle ne voulait ou ne devait pas voir. Pour Ottilie, disons-nous, les remarques de l'anglais avaient quelque chose d'effrayant. Il lui semblait qu'il venait de déchirer le voile gracieux sous lequel l'avenir se cachait encore pour elle. Le château, les promenades, les constructions nouvelles ne lui paraissaient plus que de froides inutilités, puisque leur véritable propriétaire n'en jouissait pas, et qu'il errait à travers le monde, non en voyageur et pour sa propre satisfaction, mais exposé à tous les dangers de la carrière militaire, dans laquelle il avait été poussé par dévouement pour les objets de ses affections. Accoutumée depuis longtemps à écouter en silence, elle ne répondit rien, mais son cœur était déchiré. Loin de présumer l'effet qu'il avait produit, le lord continua gaiement la conversation sur le même sujet. « Je me crois enfin sur la bonne route, car je suis arrivé à ne plus voir en moi qu'un voyageur perpétuel qui renonce à beaucoup pour jouir de plus encore. Me voilà fait au changement. Il est même devenu un besoin pour moi. Je m'y attends sans cesse, comme on s'attend à l'opéra à une décoration nouvelle, par la seule raison qu'on en a déjà vu une grande quantité. Je sais d'avance ce que je dois espérer de la meilleure comme de la plus mauvaise auberge, et que le bien et le mal seront en dehors de mes habitudes. Mais qu'on soit esclave de ses habitudes ou des caprices du hasard, le résultat est le même. Excepté, cependant, que dans le dernier cas, on n'est pas exposé à se fâcher parce qu'un objet de prédilection a été égaré ou perdu, à ne pas dormir pendant plusieurs nuits parce que l'on est obligé de coucher dans une autre chambre jusqu'à ce que les réparations devenues indispensables dans la nôtre soient terminées, ou à trouver fort longtemps son déjeuner mauvais parce qu'on ne peut plus le prendre dans la tasse qu'on affectionnait et qu'un valet maladroit a cassé. Cette foule de petits malheurs, et d'autres plus réels, ne saurait plus m'atteindre. Quand le feu prend à une maison, j'ordonne à mes gens de faire les paquets. Je monte tranquillement en voiture, et je sors de cette maison et de la ville pour aller chercher un gîte ailleurs. Et lorsqu'à la fin de l'année j'arrête mon compte, je trouve que je n'ai pas dépensé davantage que si je fusse resté chez moi. » Ce tableau retraçait à Ottilie l'image d'Édouard, luttant péniblement contre les incommodités, les privations et les dangers de la vie des camps. Lui qui s'était habitué à trouver chez lui la sécurité, l'aisance et même les superfluités de la vie de famille la plus élégante, la plus commode et la plus libre. Pour cacher sa douleur, elle se réfugia dans la solitude. Jamais encore elle n'avait été aussi malheureuse, car elle sentait clairement quelle était la cause qui avait éloigné Édouard de sa maison et qui l'empêchait d'y revenir. Cette conviction était plus cruelle pour elle que les doutes les plus pénibles. Et cependant, elle cherchait toujours à s'y affermir davantage. Lorsque nous nous jetons une fois sur la route des tourments, nous en augmentons l'horreur en nous tourmentant nous-mêmes. La situation de Charlotte, qu'elle jugea d'après ses propres sensations, lui parut si cruelle qu'elle se promit de hâter de tout son pouvoir la réconciliation des époux, d'ensevelir son amour et sa douleur dans quelque retraite obscure et de tromper ses amis en leur faisant croire qu'elle avait trouvé le repos et le bonheur dans une occupation utile. Le compagnon de voyage du lord joignait aux nombreuses qualités qui le distinguaient un esprit d'observation aussi juste que profond. S'intéressant spécialement aux événements qui résultent d'un conflit entre les lois et la liberté, les relations sociales et naturelles, la raison et la sagesse, les passions et les préjugés, il avait deviné sans peine ce qui s'était passé au château avant leur arrivée. Persuadé que les dernières conversations du lord avaient affligé les dames, il s'était empressé de l'en avertir, et le noble voyageur se promit de ne plus commettre de pareilles fautes. Il savait cependant qu'il n'avait pas été réellement coupable, et qu'il faudrait se taire toujours si l'on ne voulait jamais rien dire qui pût affecter l'une ou l'autre des personnes devant lesquelles on parle. Car les observations les plus vulgaires peuvent réveiller des douleurs assoupies, blesser des intérêts vivants. « J'éviterai autant que possible dit-il à son compagnon, toute nouvelle méprise de ce genre. Tâchez de me seconder en racontant à ces dames quelques-unes des charmantes anecdotes dont, pendant votre voyage, vous avez enrichi votre portefeuille et votre mémoire. » Ce louable dessein n'eut pas tout le succès que les deux étrangers en avaient espéré. Les dames écoutèrent le narrateur avec beaucoup de plaisir. Flattées de l'intérêt qu'elles prenaient à ses récits et à son débit, il voulut achever de les charmer par une petite histoire aussi singulière que touchante. Comment aurait-il pu deviner qu'elles y prendraient un intérêt personnel? Les singuliers enfants de voisins. Nouvelle. Deux enfants, nés de riches propriétaires dont les domaines se touchaient, grandissaient ensemble sous les yeux de leurs parents qui, pour resserrer les liens de bon voisinage, avaient formé le projet de les unir un jour. Sous le rapport de l'âge, de la fortune, de la position sociale, ce mariage ne laissait rien à désirer. Aussi les parents le regardaient-ils déjà comme une affaire irrévocablement arrêtée. Bientôt, cependant, ils furent forcés de reconnaître que chaque jour augmentait l'antipathie instinctive qui séparait ces deux enfants, dont, sous tous les autres rapports, les dispositions annonçaient les caractères les plus heureux. Peut-être se ressemblaient-ils trop pour pouvoir vivre en paix ensemble. Chacun d'eux ne s'appuyait que sur lui-même, énonçait clairement sa volonté, et y tenait avec une fermeté inébranlable. Chéris, presque vénérés par tous leurs petits camarades pour lesquels ils avaient une affection sincère, ils ne se montraient malveillants, emportés et querelleurs que lorsqu'ils se trouvaient en face l'un de l'autre. Les mêmes désirs, les mêmes espérances les animaient sans cesse. Mais au lieu d'y tendre par une émulation salutaire, ils cherchaient à s'arracher la victoire par une lutte opiniâtre. Cette disposition singulière des deux enfants se trahissait surtout dans leur jeu. Le petit garçon, poussé par les penchants de son sexe, organisait des batailles. Un jour, l'armée ennemie, qu'il avait déjà vaincue plusieurs fois, allait fuir de nouveau devant ce vaillant chef, quand tout à coup, l'audacieuse jeune fille se mit à la tête du bataillon dispersé, le ramena au combat et se défendit avec tant de courage qu'elle serait restée maîtresse du champ de bataille si son jeune voisin, abandonné de tous les siens, ne lui avait pas seul tenu tête. Luttant corps à corps avec elle, il la désarma et la déclara prisonnière. L'héroïne refusa de se rendre, et son vainqueur, forcé de choisir entre l'alternative de se laisser arracher les yeux ou de blesser sérieusement son indomptable ennemi, prit le parti de détacher sa cravate pour lui lier les mains et les lui attacher sur le dos. Depuis ce jour, elle ne rêva qu'au moyen de venger l'affront qu'elle avait reçu. À cet effet, elle fit en secret une foule de tentatives qui auraient pu avoir, pour son petit voisin, les résultats les plus fâcheux. Une pareille inimitié ne pouvait manquer d'attirer enfin l'attention des parents. Après une sincère et loyale explication, ils reconnurent que non seulement ils devaient renoncer à l'union projetée, mais qu'il était urgent de séparer au plus vite ces petits et irréconciliables ennemis. On éloigna le jeune homme de la maison paternelle, et ce changement de position eut pour lui les conséquences les plus heureuses. Après s'être distingué dans divers genres d'études, les conseils de ses protecteurs et ses propres penchants lui firent embrasser la carrière militaire. Estimé et chéri partout et par tout le monde, il semblait prédestiné à ne jamais employer ses forces actives que pour son bonheur à lui et pour la satisfaction des autres. Sans se l'avouer ouvertement, il s'applaudissait d'avoir enfin été débarrassé du seul adversaire que la nature lui avait donné dans la personne de sa petite voisine. De son côté, la jeune fille se montra tout à coup sous un jour différent. Un sentiment intime l'avertit qu'elle était trop grande pour continuer à partager les jeux des petits garçons. Il lui semblait en même temps qu'il lui manquait quelque chose, car depuis le départ de son ennemi né, elle ne voyait plus autour d'elle aucun objet assez fort, assez noble, pour exciter sa haine, et jamais encore personne ne lui avait paru aimable. Un jeune homme plus âgé de quelques années que son ancien ennemi, et qui joignait à une naissance distinguée de la fortune et de grands mérites personnels, ne tarda pas à lui accorder toute son affection. Les sociétés les plus élégantes cherchaient à l'attirer, et toutes les femmes désiraient lui plaire. La préférence marquée d'un tel homme sur une foule de jeunes filles plus riches et plus brillantes qu'elle ne pouvait manquer de la flatter. Les soins qu'il lui rendait étaient constants, mais sans importunité, et elle pouvait, dans toutes les éventualités possibles, compter sur son appui. Il avait positivement demandé sa main à ses parents, en prenant toutefois l'engagement d'attendre aussi longtemps qu'on le jugerait convenable, puisqu'elle était encore trop jeune pour se marier immédiatement. L'habitude de le voir chaque jour et d'entendre sa famille et ses amis parler de lui comme de son fiancé l'amenèrent insensiblement à croire qu'il l'était en effet. Les anneaux furent échangés, et personne n'avait songé que les jeunes gens ne se connaissaient pas encore assez pour que l'on pût, sans imprudence, les unir par une cérémonie qui est presque un mariage. Les fiançailles ne changèrent rien à la situation calme et paisible des futurs époux. Des deux côtés, les relations restèrent les mêmes. On s'estimait heureux de vivre ainsi ensemble et de prolonger aussi longtemps que possible le printemps de la vie, qui n'est toujours que trop tôt remplacé par les chaleurs fatigantes et par les orages de l'été. Pendant ce temps, le jeune homme absent était devenu un officier distingué. Un grade mérité venait de lui être accordé, et il obtint sans peine la permission d'aller passer quelques semaines chez ses parents, ce qui le plaça de nouveau en face de sa belle voisine. Cette jeune personne n'avait encore éprouvé que des affections de famille et le sentiment paisible d'une fiancée qui accepte sans répugnance l'homme qu'on lui destine. En harmonie parfaite avec son entourage, elle se croyait heureuse, et sous certains rapports du moins, elle l'était en effet. Cette uniformité fut tout à coup interrompue par l'arrivée de l'ennemi de son enfance. Elle ne le haïssait plus, son cœur s'était fermé à la haine. Au reste, cette ancienne aversion n'avait jamais été que la conscience confuse du mérite de l'enfant dans lequel elle avait vu un rival. Lorsque, devenu un remarquable jeune homme, il se présenta devant elle, elle éprouva une joyeuse surprise et le besoin involontaire d'un rapprochement sincère, d'autant plus facile à satisfaire que le jeune officier partageait, à son insu, toutes les sensations de son ancien ami. Les années pendant lesquelles ils avaient vécu éloignés l'un de l'autre leur fournissaient des sujets interminables pour de longs et intéressants récits. Parfois aussi, ils se plaisantaient mutuellement sur leurs querelles d'enfance, et tous deux se croyaient, au fond de leur cœur, obligés de réparer leurs torts par des attentions aimables. Il leur semblait même qu'ils ne s'étaient jamais méconnus et qu'ils n'avaient été qu'égarés par une rivalité naturelle entre deux enfants auxquels la nature a donné les mêmes désirs, les mêmes prétentions. Puisqu'ils avaient enfin appris à s'apprécier, leur ancienne hostilité n'était plus à leurs yeux qu'une lutte pour rétablir l'équilibre d'où devaient naturellement naître l'estime et l'affection. Ce changement se fit dans l'âme du jeune homme d'une manière vague et calme. Préoccupé des devoirs de son état, dans lequel il espérait arriver à un grade élevé, animé du désir de perfectionner ses connaissances acquises et d'approfondir toutes les sciences en rapport avec la carrière militaire, il accepta la bienveillance marquée de la belle fiancée comme un plaisir passager, une distraction de voyageur. Voyant déjà en elle la femme d'un autre, il ne supposa pas même qu'il fût possible d'envier le bonheur du futur, avec lequel il vivait dans une intimité qui touchait de près à l'amitié. La jeune fille était dans une disposition d'esprit bien différente. Il lui semblait qu'elle venait de se réveiller d'un long rêve. Son petit voisin avait été l'objet de sa première, de sa seule passion. En se rappelant la guerre ouverte dans laquelle elle avait vécu avec lui, elle reconnut qu'elle y avait été poussée par un sentiment violent mais agréable, d'où elle conclut que sa prétendue haine était de l'amour et qu'elle n'avait jamais aimé que lui. Bientôt, elle arriva à se convaincre que sa manie de l'attaquer les armes à la main et de lui tendre des pièges au risque de le blesser lui avait été inspirée par le besoin de s'occuper de lui et d'attirer son attention. Elle crut même se souvenir distinctement que pendant la lutte où il était parvenu à la dompter et à lui lier les mains, elle s'était laissée aller à une sensation enivrante que jamais rien depuis ne lui avait fait éprouver. Ne voyant plus qu'un malheur dans la méprise qui avait éloigné son jeune voisin, elle déplora l'aveuglement d'un amour qui s'était manifesté sous les apparences de la haine, et maudit la puissance assoupissante de l'habitude, puisque cette puissance lui avait fait accepter pour futur le plus insignifiant des hommes. Enfin, elle était complètement métamorphosée. Avait-elle dépassé l'avenir ou était-elle revenue sur le passé? On pourrait répondre affirmativement à l'une et à l'autre de ces deux questions. Lors même qu'il eût été possible de lire au fond de l'âme de cette jeune fille, on aurait osé blâmer son changement à l'égard de son futur, car il était tellement au-dessous du jeune officier que la comparaison ne pouvait que lui être défavorable. Si l'on accordait volontiers à l'un une certaine confiance, l'autre inspirait une sécurité complète. Si l'on aimait à associer l'un à tous les plaisirs de la société, on voyait dans l'autre un ami aussi sûr qu'aimable. Et lorsqu'on se les figurait tous deux dans une de ces positions sérieuses et graves qui font dépendre le sort de toute une famille, de la résolution et de la sagesse d'un homme, on doutait de l'un, tandis que l'on comptait sur l'autre comme sur un appui inébranlable. Les femmes ont, pour sentir et pour juger ces sortes de différences, un tact particulier que leur position sociale les met sans cesse dans la nécessité de développer et de perfectionner. Personne ne songea à plaider la cause du futur auprès de sa belle fiancée, ni à lui rappeler les devoirs que lui imposaient à son égard les convenances de famille et de société, car on ne supposait pas qu'elle nourrissait un penchant opposé à ses devoirs. Son cœur, cependant, se laissait aller à ce penchant en dépit du lien qui l'enchaînait et qu'elle avait sanctionné par un consentement positif et volontaire. Elle ne se laissa pas même décourager par le peu de sympathie qu'elle rencontrait chez le jeune officier. Se conduisant en frère, bienveillant plutôt que tendre, il lui fit voir que toutes ses espérances se bornaient à avancer promptement dans la carrière militaire, ce qui devait nécessairement l'éloigner bientôt, et pour toujours peut-être. Il alla jusqu'à lui parler de ses projets et de son prochain départ, avec une tranquillité parfaite. Ce prochain départ, surtout, alarma la jeune fille, et l'irritation qui avait agité son enfance se réveilla chez elle avec ses ruses malfaisantes et ses funestes emportements, pour causer des maux plus grands sur un degré plus élevé de l'échelle de la vie. Afin de punir de sa froide indifférence l'homme qu'elle n'avait tant haï que pour l'aimer davantage encore, elle prit la résolution de mourir. Ne pouvant être à lui, elle voulait au moins vivre dans son imagination, comme un éternel sujet de repentir, laissait dans sa mémoire l'image ineffaçable de ces restes inanimés, et le réduire ainsi à se reprocher toujours de n'avoir su ni apprécier ni deviner le sentiment qu'elle lui avait voué. Tout entière sous l'empire de cette cruelle démence, qui se manifesta sous les formes les plus capricieuses, elle étonna tout le monde. Mais personne ne fut assez sage, assez pénétrant, pour deviner la cause de ce singulier changement. Les parents, les amis, les simples connaissances même, s'étaient entendus entre eux afin de surprendre presque chaque jour les jeunes fiancés par quelque fête nouvelle. La plupart des sites des environs avaient déjà été exploités à cette occasion. Le jeune officier, cependant, ne voulait pas quitter le pays sans avoir fait aux futurs époux une galanterie semblable, et il les invita, avec toute leur société, à une promenade en bateau. Au jour indiqué, tous les invités montèrent sur un de ces jolis yachts qui offrent sur l'eau presque toutes les commodités de la terre ferme, et l'on descendit le fleuve au son d'une joyeuse musique. Le salon et les petits appartements qui l'entouraient offraient un refuge agréable contre l'ardeur du soleil. Aussi la société ne tarda-t-elle pas à s'y retirer et à organiser de petits jeux. Le jeune officier, dont le premier besoin était de s'occuper utilement, resta sur le pont. S'apercevant que le patron, accablé par la fatigue et par la chaleur, était sur le point de céder au sommeil, il prit le gouvernail à sa place. Sa tâche était d'abord facile et douce, car le yacht suivait seul le cours de l'eau. Mais bientôt, il s'approcha d'une place où le fleuve se trouvait resserré entre deux îles qui étendaient sous les flots leurs rivages plats et sablonneux, ce qui rendait ce passage fort dangereux. L'officier ne manquait pas d'habileté, et cependant il se demandait, tout en se dirigeant vers le détroit, s'il ne serait pas plus prudent de réveiller le patron. En ce moment, sa belle ennemie parut sur le pont, arracha la couronne de fleurs dont on venait d'orner ses cheveux, et la lui jeta en s'écriant d'une voix altérée « Reçois ce souvenir !»« Ne me distrais pas !» répondit le jeune homme en saisissant la couronne au vol. « J'ai en ce moment besoin de toutes mes forces, de toute ma présence d'esprit. »«
Je ne te distrairai pas longtemps. Tu ne me reverras plus jamais. »
À peine avait-elle prononcé ces mots qu'elle se précipita dans le fleuve.
« Au secours ! Au secours ! Elle se noie !»
s'écrièrent plusieurs voix confuses. On courut, ça et là, le tumulte était au comble. L'officier ne pouvait quitter le gouvernail sans exposer la vie de tous ceux qui se trouvaient sur le yacht, et s'il continuait à le diriger, la jeune fille était perdue. Car, au lieu de la secourir, on se bornait à crier. Ses cris venaient de réveiller le patron. Il saisit le gouvernail que le jeune homme lui abandonna pour se dépouiller de ses vêtements et se précipiter dans le fleuve afin de sauver sa belle ennemie. Dans les moments critiques, le changement de la main qui gouverne amène toujours une catastrophe funeste, et le bateau, malgré l'expérience et l'habileté du patron, échoua sur le sable. Pour le nageur habile, l'eau est un élément ami. Elle porta docilement l'officier qui rejoignit bientôt la jeune fille. Il la saisit et la soutint avec tant de force qu'elle semblait nager à ses côtés. C'était l'unique secours qu'il put lui donner pour l'instant, car le courant était si fort que toute tentative pour gagner le rivage les eût rendus la proie des flots. Au bout de quelques instants, il avait laissé derrière lui le yacht échoué, le détroit et les îles. Le fleuve était redevenu calme, car il coulait de nouveau dans un vaste lit. Le danger le plus grand était passé, et le jeune homme, qui n'avait agi jusque-là qu'instinctivement, retrouva enfin la force de calculer ses actions. Ses yeux cherchèrent et découvrirent bientôt le point du rivage le moins éloigné. Redoublant d'efforts, il se dirigea vers ce point qui était garni d'arbres et qui s'avançait dans le fleuve. Il l'atteignit facilement et y déposa la jeune fille. Ce fut alors seulement qu'il s'aperçut qu'elle ne donnait aucun signe de vie. Regardant autour de lui avec désespoir, comme s'il demandait des secours au hasard, il vit un sentier battu qui conduisait à travers le bois. L'espoir de trouver un lieu habité ranima son courage. Chargé du doux fardeau qu'il cherchait à disputer à la mort, il s'avança à grands pas sur ce sentier qui ne tarda pas à le conduire à la demeure solitaire d'un jeune couple nouvellement marié. Sa position n'avait pas besoin de commentaires, et le mari et la femme firent tout ce qui était en leur pouvoir pour l'aider à secourir sa compagne. L'un alluma du feu, l'autre débarrassa la jeune fille de ses vêtements mouillés et l'enveloppa dans des couvertures et des peaux de mouton qu'elle faisait chauffer. Enfin, on ne négligea rien de tout ce que l'on pouvait faire pour ranimer ce beau corps nu et toujours immobile et glacé. Tant de soins ne restèrent pas sans récompense. La jeune fille ouvrit enfin les yeux, jeta ses beaux bras nus autour du cou de son sauveur et éclata en sanglots. Cette explosion de sensibilité acheva de la sauver. Pressant plus fortement son amie sur sa poitrine, elle lui dit avec exaltation « Je t'ai retrouvée une seconde fois. Veux-tu encore m'abandonner ?»« Non, non, » répondit l'officier, qui ne savait plus ce qu'il faisait ni ce qu'il disait. « Mais au nom du ciel, ménage-toi, songe à ta santé, pour toi, pour moi surtout. » En jetant un regard sur elle-même, elle s'aperçut de l'état où elle se trouvait et pria son amie de s'éloigner. Cette prière ne lui avait pas été inspirée uniquement par la pudeur. Comment aurait-elle pu avoir honte devant son amant, devant son sauveur? Mais elle voulait lui donner le temps de prendre soin de lui-même et de sécher ses vêtements. Le costume de noces des jeunes mariés était encore frais et beau. Ils s'empressèrent d'emparer leurs hôtes, qui, en se revoyant, se regardèrent un instant avec une joyeuse surprise. Puis, entraînés par la violence d'une passion devenue enfin réciproque, ils se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre. Soutenus par la force de la jeunesse et par l'exaltation de l'amour, ils n'éprouvaient aucun malaise, et s'ils avaient entendu de la musique, ils se seraient mis à danser. Se trouver tout à coup transporté au milieu de l'eau sur une terre hospitalière et du cercle de la famille dans une solitude agreste, passer de la mort à la vie, de l'indifférence à la passion, du désespoir à l'ivresse du bonheur, ce sont là de ces changements qui altéreraient la tête la plus forte, si le cœur ne venait pas à son secours par ses tendres épanchements. Absorbés, pour ainsi dire, l'un dans l'autre, les deux anciens ennemis avaient oublié leur famille et leur position sociale. Et lorsqu'ils songèrent enfin à l'inquiétude que leur disparition ne pouvait manquer de causer à leurs parents, ils se demandèrent avec effroi comment ils oseraient reparaître devant eux. Faut-il fuir? Faut-il pour toujours nous soustraire à leur recherche? Demanda le jeune homme. « Que m'importe ? » répondit-elle, « pourvu que nous restions ensemble. » Et elle se jeta de nouveau dans ses bras. Le villageois à qui ils avaient appris l'accident arrivé au yacht s'était rendu à leur insu sur le bord du fleuve, où il espérait l'apercevoir, car il présumait qu'on s'était empressé de le remettre à flot. Cet espoir ne tarda pas à se réaliser, et il fit tant de signes qu'il attira l'attention des parents des jeunes gens qui étaient tous réunis sur le pont et cherchaient des yeux un indice qui pût leur faire découvrir les traces de leur malheureux enfant. Le yacht se dirigea en hâte vers le rivage où le jeune paysan continuait à faire des signaux. On débarqua avec précipitation, on apprit que les jeunes gens étaient sauvés et au même instant, tous deux sortirent des buissons. Leur costume rustique les rendait presque méconnaissables. « Est-ce bien eux ? » s'écrièrent les mères. « Est-ce bien eux ? » répétèrent les pères. «
Oui, ce sont vos enfants, répondirent-ils tous deux en se jetant à genoux. Pardonnez-nous, dit la jeune fille. Bénissez notre union, ajouta le jeune homme. Bénissez notre union, répétèrent-ils tous deux. Pas une voix ne répondit. Les jeunes gens demandèrent une troisième fois la bénédiction de leurs parents. Comment auraient-ils pu la leur refuser? Chapitre 11. Le narrateur se tut et remarqua avec surprise que Charlotte était en proie à une vive émotion. Craignant de s'y abandonner d'une manière trop visible, elle quitta brusquement le salon. Le jeune officier, le héros de l'histoire que l'Anglais venait de raconter, n'était autre que le capitaine. Les traits principaux étaient rigoureusement vrais. Les détails seuls avaient subi quelques modifications, ainsi que cela arrive toujours quand un fait qui a déjà passé par plusieurs bouches est rapporté par un conteur gracieux et spirituel. Ottilie suivit sa tante, et le lord put à son tour faire remarquer à son compagnon de voyage que sans doute il avait commis une faute et réveillé par son récit quelques souvenirs douloureux dans le cœur de Charlotte. « Il paraît, continua-t-il, que malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons rendre à ces dames que le mal pour le bien. Ce qui nous reste de mieux à faire est donc de partir le plus tôt possible. » J'en conviens. Je dois cependant vous avouer, Milord, que je me sens retenu ici par un fait singulier que je voudrais pouvoir éclaircir. Hier, pendant notre promenade, vous étiez beaucoup trop absorbé par votre chambre obscure pour vous occuper de ce qui se passait autour de vous. Un point peu visité des bords opposés du lac vous avait spécialement frappé et vous vous y êtes rendu par un sentier détourné. Au lieu de prendre ce même sentier, Ottilie m'a proposé de vous rejoindre en traversant le lac, et je suis montée dans la nacelle qu'elle dirigeait avec tant d'adresse que je n'ai pu m'empêcher de lui exprimer mon admiration. Je l'ai assuré que depuis notre départ de la Suisse, où de charmantes jeunes filles servent souvent de bateliers aux voyageurs, je n'avais encore jamais été balancée sur les flots d'une manière aussi agréable. Je lui ai demandé ensuite pourquoi elle n'avait pas voulu suivre le sentier que vous aviez choisi, car je m'étais aperçu qu'il lui inspirait un sentiment de crainte insurmontable. « Si vous me promettez de ne pas vous moquer de moi, m'a-t-elle répondu, je vous dirai mes motifs, autant que cela est en mon pouvoir, puisqu'ils sont un mystère pour moi-même. » Je ne puis marcher sur cette route sans être saisie d'une terreur qu'aucune autre cause ne saurait me faire éprouver et que je ne puis m'expliquer. Cette sensation est d'autant plus désagréable qu'elle est presque aussitôt suivie d'une violente douleur au côté gauche de la tête, incommodité à laquelle je suis au reste très sujette. Pendant cette explication, nous sommes arrivés près de vous. « Ottilie s'est occupée de votre travail et je suis allée visiter le sentier qui exerce sur elle une si singulière influence. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai reconnu les indices certains de la présence du charbon de terre. Oui, j'en suis convaincue, si l'on voulait faire des fouilles à cette place, on découvrirait bientôt une abondante mine de houille. » Vous souriez, Milord. Je sais que vous avez pour mes opinions sur ce sujet l'indulgence d'un sage et d'un ami. Vous me croyez dominé par une folie inoffensive. Continuez à l'envisager sous ce point de vue et laissez-moi soumettre la charmante Ottilie à l'épreuve des oscillations du pendule. » Le lord n'entendait jamais parler de cette épreuve sans répéter les principes et les raisonnements sur lesquels il fondait son incrédulité. Son compagnon l'écoutait avec patience, mais il restait inébranlable dans ses convictions. Parfois seulement, il répondait tranquillement qu'au lieu de renoncer à des essais, dont on obtient rarement les résultats espérés, il fallait s'y livrer avec plus d'ardeur et de persévérance.
Selon lui, c'était l'unique moyen de découvrir, tôt ou tard, les rapports et les affinités encore inconnus que les corps organisés et non organisés ont entre eux et les uns envers les autres. Déjà, il avait étalé sur une table les anneaux d'or, les marcassites et autres substances métalliques dont se composait l'appareil de son expérience et qu'il portait toujours sur lui, renfermé dans une boîte élégante. Sans se laisser déconcerter par le sourire ironique du Lord, il attacha plusieurs morceaux de métaux à des fils et les tint suspendus au-dessus d'autres métaux posés sur la table. « Je ne trouve pas mauvais, Milord, dit-il, que vous vous égayiez aux dépens de mon impuissance. Je sais depuis longtemps que pour et par moi, rien ne s'agite. Aussi mon expérience n'est-elle en ce moment qu'un prétexte pour piquer la curiosité des dames, qui ne tarderont pas à revenir. » Bientôt, elles rentrèrent en effet au salon. Charlotte devina à l'instant le but de l'opération de l'anglais. « J'ai souvent entendu parler de ces sortes d'expériences, dit-elle, mais je n'en ai jamais vu faire. Puisque vous vous y livrez en ce moment, laissez-moi essayer si je pourrais obtenir un effet quelconque. » Et prenant le pendule à la main, elle le soutint, sans émotion, et avec le désir sincère de le voir s'agiter. Tout resta immobile. Ottilie essaya à son tour, ignorant ce qu'elle faisait. Son esprit était plus tranquille, mais plus calme encore que celui de sa tante. Mais à peine eut-elle approché le métal suspendu au bout du pendule, du morceau de métal posé sur la table, que le premier se mit en mouvement comme entraîné par un tourbillon irrésistible. Tantôt il tournait à droite ou à gauche, en cercle ou en ellipse, et tantôt il prenait son élan en ligne perpendiculaire, selon la nature du métal posé sur la table, et que l'anglais ne pouvait se lasser de changer afin de varier et de multiplier les expériences. Ce succès, presque merveilleux, causa au Lord une vive surprise et dépassa toutes les espérances de son compagnon de voyage. Ottilie, qui s'était prêtée avec beaucoup de complaisance à une opération dans laquelle elle ne voyait qu'un jeu insignifiant, ne tarda cependant pas à prier l'anglais de mettre un terme à ce jeu, parce que son mal de tête venait de la reprendre avec une violence inaccoutumée. Cette dernière circonstance acheva d'enchanter l'anglais. Dans son enthousiasme, il promit à la jeune fille que, si elle voulait avoir confiance au procédé qui pour l'instant venait d'augmenter son mal, il l'en guérirait promptement et pour toujours. Charlotte repoussa cette offre bienveillante avec beaucoup de vivacité. Elle avait toujours eu une appréhension instinctive pour cette expérience, et il n'entrait pas dans ses principes de laisser faire aux siens ce qu'elle n'approuvait pas complètement. Les deux voyageurs venaient d'exécuter leur projet de départ, et les dames, que plus d'une fois ils avaient péniblement affectées, désiraient cependant pouvoir un jour les retrouver dans la société. Devenue entièrement libre, Charlotte profita de la belle saison pour rendre les nombreuses visites par lesquelles tous ses voisins s'étaient empressés de lui prouver leur intérêt et leur amitié. Le peu d'heures que l'accomplissement de ce devoir lui permettait de passer chez elle était consacré à son enfant, qui, sous tous les rapports, méritait une affection et des soins extraordinaires. Tout le monde, au reste, voyait en lui un don merveilleux de la Providence, et il justifiait cette opinion. Doué d'une santé robuste, il grandissait et se développait rapidement, et la double ressemblance qui, le jour de son baptême, avait causé tant de surprises, devenait toujours plus frappante. La coupe de son visage et le caractère de ses traits le rendaient l'image vivante du capitaine. Mais ses yeux semblaient avoir été modelés sur ceux d'Ottilie, et la même âme s'y réfléchissait. Cette singulière parenté, et surtout le sentiment qui pousse les femmes à étendre l'amour qu'elles ont voué au père sur les enfants dont elles ne sont pas les mères, rendait le fils d'Édouard cher à Ottilie. L'entourant des soins les plus tendres, elle était pour lui une seconde mère, ou plutôt une mère d'une nature plus élevée, plus noble que celle qui lui avait donné la vie. Cette affection avait excité la jalousie de Nanny, qui s'était éloignée peu à peu de sa maîtresse et qui avait fini par pousser l'obstination jusqu'à retourner chez ses parents, où elle vivait dans un isolement volontaire. Ottilie continua à promener l'enfant et s'accoutuma ainsi à de longues excursions. Aussi avait-elle soin d'emporter toujours un petit flacon de lait pour donner à son petit favori la nourriture dont il avait besoin. Comme elle oubliait rarement de se munir d'un livre, elle formait une gracieuse Ponserosa quand elle marchait ainsi, lisant et tenant ce bel enfant sur ses bras. Chapitre 12. Le principal but que le souverain s'était proposé en entrant en campagne était atteint, et le baron, chargé de décorations honorablement gagnées, se retira de nouveau dans la métairie, où il avait cherché un refuge lors de son départ du château. Il savait tout ce qui s'était passé pendant son absence, car il avait trouvé moyen de faire observer les dames de très près, et si adroitement qu'elle n'en avait jamais eu le plus léger soupçon. Le séjour de la ferme lui parut d'autant plus agréable qu'on y avait fidèlement exécuté les ordres qu'il avait donnés avant son départ pour améliorer et embellir cette retraite. Enfin, il la trouva telle qu'il l'avait désirée, c'est-à-dire remplaçant par son utilité et la variété de ses agréments ce qui lui manquait en étendue. L'activité tumultueuse et la promptitude décidée de la vie militaire avaient accoutumé Édouard à mettre plus de fermeté dans sa manière d'agir, et il se sentit enfin le courage de réaliser un projet sur lequel il croyait avoir suffisamment médité. Son premier soin fut de faire venir le major près de lui, et tous deux éprouvèrent en se revoyant une joie égale. Les amitiés d'enfance et les liens du sang ont, sur toutes les autres affections, l'avantage inappréciable qu'aucun malentendu ne peut les rompre entièrement, et qu'il suffit d'une courte absence pour rétablir les anciennes relations telles qu'elles étaient autrefois. Édouard apprit avec le plus vif plaisir que la position de fortune de son ami réalisait, surpassait même toutes ses espérances, et il s'empressa de lui demander s'il n'avait pas quelque riche mariage en perspective. Le major répondit négativement et d'un air grave et sérieux. « Je ne veux ni ne dois rien te cacher, lui dit-il. Apprends tout de suite quelles sont mes intentions et mes projets. Tu connais ma passion pour Ottilie, et tu as compris que c'est cette passion qui m'a précipité au milieu des périls de la guerre. J'avoue que j'aurais voulu pouvoir me débarrasser honorablement dans cette carrière d'une existence qui m'était devenue insupportable, puisque je ne devais pas la consacrer à mon ami. Cependant, je n'ai jamais entièrement perdu l'espoir. La vie à côté d'Ottilie me paraissait si belle qu'il m'a été impossible d'en faire une abnégation complète. 1000 pressentiments, 1000 signes mystérieux m'affermissaient malgré moi dans la vague croyance qu'un jour elle pourrait m'appartenir. Un verre qui porte son chiffre et le mien a été jeté en l'air le jour où on a posé la première pierre de la maison d'été, et il ne s'est pas brisé, et il a été remis entre mes mains. Que de combats cruels et inutiles n'ai-je pas soutenu contre moi-même dans ce lieu où nous nous revoyons aujourd'hui. Fatigué de tant de luttes stériles, j'ai fini par me dire « Mets-toi à la place de ce ver prophétique. Deviens toi-même la pierre de touche de ton avenir. Va chercher la mort, non en homme désespéré, mais en homme qui croit encore à la possibilité de vivre. Combat pour Ottilie, qu'elle soit le prix d'une bataille gagnée, d'une forteresse prise d'assaut. Fais des prodiges pour mériter ce prix. » Tels sont les sentiments qui m'ont animée pendant toute la campagne. Aujourd'hui, je me sens arrivée au but, car j'ai vaincu les obstacles. J'ai renversé les difficultés qui me barraient le passage. Ottilie est enfin mon bien à moi, et ce qui me reste à faire pour passer de cette pensée à la réalisation n'est plus rien à mes yeux.
Tu viens de repousser d'avance les observations que je puis et que je dois te faire, répondit le major. Cela ne m'empêchera pas de te parler en ami sincère. Je te laisse le soin de peser le bonheur que tu as trouvé naguère auprès de ta femme. Il ne t'est pas possible de t'aveugler sur ce point, mais je te rappellerai que le ciel vous a donné un fils, et que par conséquent vous êtes désormais inséparables. Car ce n'est plus trop de vos efforts réunis pour veiller sur son éducation et assurer son avenir.
« C'est par pure vanité, s'écria Édouard, que les parents se croient indispensables à leurs enfants. Tout ce qui existe trouve autour de soi la nourriture et les soins dont il a besoin. Si la mort prématurée d'un père rend la jeunesse du fils moins douce, ce fils gagne, en résumé, plus qu'il ne perd, car son esprit se développe et se forme plus vite, parce qu'il est de bonheur réduit à se plier devant la volonté d'autrui. Nécessité cruelle à laquelle nous sommes tous forcés de nous soumettre tôt ou tard. Au reste, le besoin ne pourra jamais atteindre mon fils. Je suis assez riche pour assurer un sort convenable à plusieurs enfants, et je ne vois point de considération qui puisse me faire un devoir de laisser mon immense fortune à un seul héritier. »
Le major essaya de retracer à son ami le tableau de son premier et constant amour pour Charlotte. L'impatient mari l'interrompit vivement.
« Nous avons fait tous deux une haute folie, » s'écria-t-il. « Oui, c'est toujours une folie de vouloir réaliser dans un âge plus avancé les rêves de la première jeunesse. Chaque âge a des espérances, des vues, des besoins qui lui sont particuliers. Malheur à l'homme que les circonstances ou l'erreur poussent à chercher le bonheur avant ou après l'époque de la vie où il se trouve. Mais si nous avons commis une imprudence, faut-il qu'elle empoisonne toute notre existence? De vains scrupules doivent-ils nous empêcher de profiter d'un avantage que la loi elle-même nous offre? Que de fois ne revenons-nous pas sur une résolution prise qui ne concerne que des intérêts de détail, que des parties de la vie? Pourquoi seraient-elles irrévocables quand il s'agit de l'ensemble, de l'enchaînement de cette vie? »
Le major redoubla d'adresse et d'éloquence pour rappeler à son ami l'utilité des rapports de famille et de société qu'il devait à sa femme. Mais il lui fut impossible de se faire écouter avec intérêt.
« Tout cela, mon cher ami, répondit Édouard, je me le suis répété à satiété au milieu des batailles, quand le tonnerre du canon faisait trembler le sol, quand les balles sifflaient à droite et à gauche, éclaircissaient nos rangs, tuaient mon cheval sous moi et perçaient mon chapeau. Et quand j'étais assis seul sous la voûte étoilée, près du foyer d'un bivouac, tous ces devoirs de convention, toutes ces exigences sociales passaient devant ma pensée. Je les ai examinés sous tous les points de vue. J'ai fait la part du cœur et de la raison. Je ne leur dois plus rien. J'ai réglé mes comptes à plusieurs reprises. Et pour toujours, enfin. »
Dans ces moments solennels, « Pourquoi te le cacherais-je, mon ami? Toi aussi, tu m'as occupé, car tu faisais partie de mon cercle domestique. Et longtemps avant, déjà, nous nous appartenions de cœur. » Si dans le cours de notre vie je suis resté ton débiteur, le moment est venu de te payer avec usure. Si tu es le mien, je vais te fournir le moyen de t'acquitter noblement. Tu aimes Charlotte, elle est digne de toi, et tu ne lui es pas indifférent. Comment aurait-elle pu te voir intimement sans t'apprécier? Reçois-la de ma main, conduis Ottilie dans mes bras, et nous serons les deux couples les plus heureux de la terre.
« Ce don précieux que tu m'offres, répondit le major. Loin de m'éblouir, double ma prudence. Et je vois avec chagrin que ta proposition, au lieu de trancher les difficultés, les augmente. Elle jetterait le jour le plus défavorable sur la réputation, sur l'honneur de deux hommes qui jusque-là se sont montrés à l'abri de tout reproche.
Mais c'est précisément parce que nous sommes à l'abri du reproche que nous pouvons le braver sans crainte,
s'écria Édouard. Celui qui n'a jamais fait douter de soi ennoblit une action qu'on blâmerait si elle était commise par un homme qui se serait déjà rendu coupable de plus d'une faute. Quant à moi, je me suis soumis à tant d'épreuves cruelles. J'ai tant fait pour les autres que je me sens enfin le droit de faire quelque chose pour moi. Charlotte et toi, vous pourrez à votre aise prendre conseil du temps et des circonstances, mais rien ne pourra modifier ma résolution en ce qui me concerne. Si l'on veut m'aider, je saurai me montrer reconnaissant. Si l'on m'oppose des obstacles, je saurai les faire disparaître par les moyens les plus extrêmes. Il n'en est point qui pourrait me faire reculer. » Persuadé qu'il était de son devoir de combattre, aussi longtemps que possible, les projets d'Édouard, le major dirigea l'entretien sur les formalités judiciaires qu'exigerait le divorce et un nouveau mariage. Et il fit ressortir vivement tout ce que ces démarches indispensables avaient de pénible, de fatigant, d'inconvenant même. « Je le crois, » dit Édouard avec humeur, « et je vois avec chagrin que ce n'est pas seulement à ses ennemis, mais encore à ses amis, qu'il faut enlever d'assaut les avantages que le préjugé nous refuse. Eh bien, puisqu'il le faut, je vous arracherai, malgré vous, l'objet de mes désirs sur lequel mes yeux restent fixés. Je sais que d'anciens nœuds ne se brisent pas sans déplacer, sans renverser plus d'un accessoire qui aurait préféré ne pas être dérangé. Mais dans de semblables situations, les sages discours ne servent à rien. Tous les droits sont égaux dans la balance de la raison. Et si l'un d'eux pouvait la faire pencher, il serait facile de jeter dans le bassin opposé un autre droit qui l'emporterait à son tour. Décide-toi donc, mon ami, à agir dans mon intérêt, dans le tien, à dénouer ce qui doit être rompu, à resserrer ce qui est déjà uni. Qu'aucune considération ne te retienne. Déjà le monde s'est occupé de nous, nous le ferons parler une seconde fois. Puis il nous oubliera, comme il oublie tout ce qui a cessé d'être nouveau pour lui. » Craignant d'irriter son ami par des objections nouvelles, le major garda le silence. Édouard continua à parler de son divorce comme d'une chose convenue. Il plaisanta même sur les formalités qu'il serait forcé de remplir. Mais tout en raillant, il redevint sérieux et pensif, car il ne pouvait se dissimuler ce qu'elles avaient de désagréable et de pénible. « Il n'est pourtant pas possible, dit-il, d'espérer que notre existence bouleversée se remettra d'elle-même, ou qu'un caprice du hasard viendra à notre secours. En nous faisant ainsi illusion, nous ne pourrions jamais retrouver le bonheur et le repos. Et comment pourrais-je me consoler, moi qui suis l'unique cause de nos maux à tous? C'est d'après mes instants de prière que Charlotte s'est décidée à te recevoir au château. L'arrivée d'Ottilie n'était pour ainsi dire que le résultat, la conséquence de la tienne. Il n'est pas au pouvoir humain de rendre comme non avenus les événements qui se sont succédés depuis, mais nous pouvons les faire contribuer à notre satisfaction. Détourne tes regards du riant avenir qu'il nous serait si facile de nous préparer. Impose-nous à tous une abnégation complète, terrible, et dont je veux bien, pour un instant, admettre la possibilité. Mais, lors même que nous aurions pris la résolution de rentrer dans une ancienne position qu'on a violemment quittée, est-il facile, est-il possible de la réaliser? Et quel avantage y trouverait-on en échange des mille et mille inconvénients, des tourments réels qu'on y rapporte malgré soi? Commençons par toi, et conviens que la fortune t'aurait souri en vain en te donnant un poste brillant puisque tu ne pourrais jamais passer une seule journée sous mon toit. Et Charlotte et moi, quel prix pourrions-nous attacher à nos richesses après le sacrifice que nous nous serions fait mutuellement ? Si tu partages l'opinion des gens du monde, si tu crois que l'âge finit par amortir les passions les plus violentes et les plus nobles, par effacer les sentiments les plus profondément gravés dans notre âme, n'oublie pas, du moins, que la lutte contre ces passions, contre ces sentiments, empoisonne précisément cette époque de la vie que l'on ne voudrait pas passer dans l'abnégation et la souffrance, mais dans la joie et dans le bonheur. De cette époque de la vie, enfin, à laquelle on attache d'autant plus de prix que l'on commence déjà à s'apercevoir qu'elle n'est point éternelle. Laisse-moi maintenant parler du point le plus important. Lors même que nous pourrions nous résigner tous à souffrir sans aucun espoir de compensation, que deviendrait Ottilie? Car je serais forcée de la bannir de ma maison et de souffrir qu'elle vive au milieu de ce monde maudit qui ne sent, qui ne comprend, qui n'apprécie rien. Cherche, trouve, invente, s'il le faut, une situation où elle pourrait être heureuse sans moi, et tu m'auras opposé un argument qui, lors même qu'il ne me conviendrait pas à l'instant, me ferait réfléchir de nouveau sur le parti qui me reste à prendre. La solution de ce problème n'était pas facile. Le major n'en trouva point à sa portée. Il se borna donc à répéter à son ami, pour l'endormir plutôt que pour le convaincre, tout ce qu'il y avait d'important, de difficile, de dangereux même, dans la réalisation de ses projets, et qu'il fallait au moins peser chaque démarche décisive avant de l'entreprendre. Édouard se rendit à ses prudentes observations, mais à la condition expresse que son ami ne le quitterait que lorsqu'ils auraient arrêté ensemble la conduite qu'ils devaient tenir, et fait les premières démarches qui rendraient impossible tout retour sur le passé.